Au Québec, Louis l'a dit, 1000 cas par jour, là, steady puis égal, comme on dit en latin, ça semble pas bouger beaucoup, mais ailleurs dans le monde, c'est pas bien, bien mieux.
Non, mais en fait, il y a des pays où c'est une catastrophe, là. En France, dans les 7 derniers jours, Patrick, 241 000 nouveaux cas, 52 000 uniquement dimanche. Et je lisais un article dans le New York Times où on citait le chef du groupe scientifique qui conseille le gouvernement, qui dit, écoutez, 52 000, peut-être, mais dans le fond, là, c'est peut-être plus près de 100 000 dimanche. Alors, on verra dans les prochains jours si les chiffres vont continuer d'augmenter, mais certainement très inquiétant là-bas. Un petit peu plus tôt aujourd'hui, Bernard Drainville, à son émission, a parlé avec un médecin en France, Patrick Pelloux, qui a commenté la situation.
Docteur Pelloux, est-ce que vous pourriez vous retrouver dans une situation comme celle qu'on a observée en Italie au printemps, c'est-à-dire que les hôpitaux débordent tellement que vous n'avez plus assez de respirateurs pour tout le monde et il faut choisir à qui on donne le ventilateur?
C'est possible. Là, c'est possible parce que les chiffres sont terriblement inquiétants. Ce soir, à l'heure où je vous parle, il n'y a plus un seul lit de réanimation de disponible sur Paris, par exemple. On est au point de rupture. Oui, on est au point de rupture. C'est fou, quoi. C'est fou. Et faites attention parce que si ça nous arrive à nous, ça va vous arriver à vous. Hein? Faites attention. Hein?
C'était Patrick Pelloux, qui est chef des urgences dans un hôpital, et je pense qu'il est aussi représentant là, d'un regroupement d'urgentologues en France. On l'a déjà eu ici à l'émission. C'est inquiétant. Et Philippe, c'est ça que le scénario que veulent éviter les gouvernements un peu partout, c'est-à-dire que les hôpitaux deviennent submergés en général, les soignants deviennent malades, et après ça, dans les unités de soins intensifs, tu as des choix épouvantables à faire.
Exactement. Puis tout à coup, il va falloir décider à qui va le ventilateur. Et puis aussi, un problème encore plus simple, il n'y a plus de place dans les hôpitaux. Puis c'est la progression tellement rapide. Patrick, souviens-toi, la semaine dernière, on s'en est parlé de cette menace qui planait sur le système hospitalier, notamment dans la grande région parisienne. On disait bientôt, il n'y aura pas assez de place. Et ce que nous dit le docteur Pelloux, c'est qu'une semaine plus tard, on est rendu là. Il n'y en a plus de place. Ça pose un problème.
Et aux États-Unis aussi, là, c'est pas reluisant dans tous les États.
Aux États-Unis, là, le président Trump répète tout au cours de la week-end que, bon, il y a beaucoup de cas parce qu'il y a beaucoup de tests. On sait bien que c'est pas le cas. Il y a des problèmes de capacité dans des hôpitaux dans plusieurs États, au Missouri, en Utah, au Tennessee, au Texas aussi. Le docteur Pelloux et Bernard Drainville parlaient de l'Italie. Ben, en Italie, le premier ministre italien Giuseppe Conte a décidé de fermer tous les restaurants et les bars à compter de maintenant. La mesure est entrée en vigueur il y a quelques heures, à peine 18 heures, heure d'Italie. Donc, théâtre, cinéma, salle de sport, tout ça est fermé pendant un mois. Et en Espagne, c'est encore pire. On annonce un couvre-feu pour potentiellement les 6 prochains mois, jusqu'au mois de mai. Couvre-feu de 23 heures à 6 heures le matin. Alors là aussi, ça cause un problème, beaucoup, beaucoup de commotion. On s'inquiète. Qu'est-ce qui va arriver de l'économie dans ce secteur-là? Qu'est-ce qui va arriver avec la culture, le sport, la restauration? Bref, c'est des problèmes qui surgissent partout dans le monde à l'heure actuelle.
OK. Le sujet de la COVID puis de la pandémie est un peu inévitable. On va faire le point avec Roxane Borges da Silva, qui est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Professeur da Silva, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Lagacé.
Notre collègue Louis Lacroix nous annonce qu'à 17 heures, le gouvernement va fort probablement demander un effort supplémentaire aux Québécois. Écoutez, je sais que vous êtes une spécialiste de santé publique. Vous avez des modèles, vous regardez comment la pandémie se répand, etc. Mais parlons de vente un peu. Comment on vend ça aux Québécois, un effort supplémentaire?
Mais en fait, il faut demander aux Québécois de faire un effort pour le bien-être collectif, c'est-à-dire qu'on a deux gros enjeux. On a l'enjeu de protéger nos professionnels de santé, nos infirmières, nos professeurs bénéficiaires, etc., qui travaillent fort et qui sont éreintés, qui sont très fatigués et qui s'en sortent pas parce que les cas augmentent et donc les hospitalisations et les soins intensifs risquent de déborder. Ben, sont déjà pleins et risquent de déborder. Et l'autre enjeu aussi, c'est nos patients qui attendent pour des chirurgies ou pour des traitements de cancer et qui, du coup, sont stand-by en attendant que les lits se libèrent pour pouvoir leur faire une place à eux aussi. Donc, pour toutes ces raisons-là, pour les autres, en fait, il faut avoir un grand sens du bien-être collectif et du collectif. Pour ces personnes-là, il faut absolument continuer d'être résilient et d'accepter les mesures et de les respecter, surtout.
Ça, c'est le message qui est lancé depuis le début de la pandémie. Est-ce que vous sentez, puis je le sais là, qu'on est dans le senti et dans le subjectif, professeur da Silva, là, sentez-vous que les gens en ont davantage ras-le-bol des efforts qu'au printemps dernier?
c'est sûr qu'on a eu une période de confinement qui était plus compliquée, mais plus sévère, disons, au printemps dernier, que dans d'autres endroits, disons, du moins au Canada, ou qu'aux États-Unis, évidemment. Donc, je peux comprendre qu'il y a un ras-le-bol de la part de certaines personnes, mais je les encourage à penser, comme je vais le répéter encore, à penser à leurs collègues ou à des membres des membres de famille, d'amis, qui eux attendent une chirurgie et donc d'essayer de continuer à persévérer et à faire preuve de créativité dans leur réseau social, c'est-à-dire comme on le dit en France, faire des Skype Skypeéro, c'est-à-dire des 5 à 7, des apéros par Skype, des 5 à 7 par Skype, de faire des rencontres virtuelles, d'être créative, de faire du sport à l'extérieur pour continuer à entretenir sa santé mentale. Et malgré ce ras-le-bol-là, il faut persévérer. Il nous reste encore au moins une année, peut-être pas une année, mais au moins l'hiver à passer avec ces mesures-là. Donc, il faut absolument continuer de persévérer.
Écoutez, quand on s'est parlé la dernière fois, vous nous avez parlé, professeur Da Silva, là, d'un effort à faire jusqu'à Noël 2021. Oui. Donc, je pense qu'on peut vraiment parler d'une année plus que complète, là.
Absolument. En fait, je parle. C'est surtout l'hiver qui va être difficile pour nous, pour les Québécois, parce que on a peu de moyens de sortir. Ben, on peut sortir, mais c'est sûr qu'on peut pas rester une éternité dehors, comme par exemple dans les pays chauds. Donc, enfermé, ça va être encore plus difficile avec la noirceur qui va commencer plus tôt et les journées qui vont réduire. Ça va être plus difficile pour nous dans le contexte avec le froid. Il faut continuer de persévérer pour le bien-être de la population et des personnes qui travaillent, qui sont au front, qui travaillent fort, ou des personnes qui sont en attente de chirurgie.
OK. On a su aujourd'hui là, qu'il y a des centres sportifs, là, des gyms, des studios de danse, d'arts martiaux, qui veulent ouvrir et défier l'interdiction d'opération. Est-ce qu'ils ont raison de dire que c'est sécuritaire quand même d'aller dans ces endroits-là?
Alors, en fait, il n'y a pas encore de données probantes par rapport à la transmission de la COVID sur la sueur. On ne sait pas si la sueur, par exemple, est un vecteur de propagation de la COVID. On n'a pas assez de littérature là-dessus. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si dans un cours de yoga chaud, par exemple, où vous savez, l'air est très humide et très chaud, une personne est porteuse asymptomatique ou porteuse symptomatique, quand on fait du sport ou qu'on fait du yoga ou d'un cours de gym comme ça, on va expulser beaucoup plus d'aérosols et gouttelettes que quand on est au repos. Donc, dans ce contexte, c'est très fort probable que toutes les personnes de la pièce soient contaminées. Est-ce que c'est un risque qu'on veut prendre? C'est la question que se pose le gouvernement. Sur cet aspect-là, le gouvernement prend la décision, en fait, ben pour l'instant, en tout cas, je ne sais pas ce qu'ils vont annoncer tout à l'heure, mais pour l'instant, le gouvernement a décidé d'appliquer le principe de précaution maximum et de les maintenir fermés pour éviter la propagation. Mais là encore, j'invite les Québécois à faire preuve de créativité et faire des activités. Ça se fait beaucoup maintenant en Zoom, en Skype, en toutes sortes de modes virtuels ou même d'aller dehors. Il fait encore assez bon pour pouvoir aller courir ou faire du sport dans les parcs ou en plein air.
Comment on mesure le point de rupture d'une population face à un confinement semblable? J'imagine, le professeur Da Silva, qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. C'est la pire pandémie qu'on vit globalement de notre vivant. Je disais, mais est-ce que vous avez une idée du moment où les gens ne vont plus vouloir se conformer?
Non, en fait, j'ai pas vraiment d'idée là-dessus. Comme vous venez de le dire, on n'a pas vécu. En fait, on se compare souvent à des catastrophes naturelles, comme par exemple des canicules très fortes ou des ouragans, quand on regarde la pandémie et la résilience des individus. Mais dans une canicule ou dans un ouragan, on se retrouve finalement à ce que ça s'atténue et que les risques, finalement, une canicule, ça dure 10 jours, un mois, mais ça dure pas des mois. Donc, c'est très difficile de savoir au niveau du point de rupture comment ça va se passer, quand est-ce qu'on va l'atteindre et si réellement on va pas réussir à trouver des mesures pour convaincre les personnes, les Québécois, de rester chez eux et de respecter les mesures. Par contre, si vous voulez l'exemple de la France, vous l'avez peut-être vu, quand ils ont annoncé les couvre-feux à partir de 21h, les premiers jours, on a vu un nombre de personnes incroyables dans les rues à 21h, particulièrement à Marseille, par exemple, des gens qui ne voulaient pas respecter les couvre-feux et qui se sont retrouvés dans la rue. Finalement, ça s'est calmé et les gens respectent les couvre-feux maintenant. Mais il faut vivre avec, on n'a pas le choix. C'est comme un temps de guerre, en fait, comme si on vivait une guerre mondiale pendant plusieurs années. Là, on vit une guerre mondiale contre un virus pendant plusieurs années.
Okay.
Pendant plusieurs mois, en tout cas.
Bon, côté plus insolite de ce virus-là, professeur Da Silva, on a appris qu'en Ontario, il y a un chien qui a été infecté. Qu'est-ce qu'on sait sur le virus et les animaux domestiques?
Alors là encore, on a quelques données qui nous disent que oui, c'est possible que le virus, mais que les animaux domestiques, chiens et chats, attrapent le virus. Mais on sait pas clair encore à savoir si les chiens et chats peuvent le transmettre à l'humain. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, ou par exemple chez des gens à Hong Kong qui avaient le virus, qui avaient des animaux domestiques, mais les animaux domestiques n'avaient pas attrapé la COVID. Donc, on peut pas statuer encore là-dessus. Par contre, les recommandations de santé publique sont de ne pas se faire lécher, par l'animal et de, quand on change, admettons, la litière d'un chat, de bien se laver les mains après 2 minutes, comme c'est recommandé, parce qu'on ne sait pas encore, on sait pas encore tout sur ce virus-là au niveau de la transmission homme-animal.
Merci beaucoup, professeur Da Silva.
Je vous en prie, bonne journée.